Bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle émission. Soyez les bienvenus dans la Tectonique du Savoir, saison 1, épisode 2. Une rencontre, une lecture, un nouveau savoir peut avoir un effet incroyable dans une vie. Ce dernier peut même se transformer en mouvement tectonique. Tout détruire pour tout reconstruire. Un peu violent, me direz-vous ? Certes, je vous l'accorde. Voilà le point de départ de cette émission dédiée au savoir scientifique, mais pas uniquement. Apprendre et comprendre en compagnie d'invités professionnels, sympathiques, passionnés et surtout passionnantes. Voilà quelques ingrédients de la Tectonique du Savoir, la nouvelle émission que je vous propose de découvrir aujourd'hui sur l'excellente web radio toulousaine Esprit Occitanie. Le thème de cette deuxième émission pourrait se définir comme une flânerie mathématique. Et pour m'accompagner au cours de cette flânerie, j'ai le plaisir d'être accompagné par une jeune femme professionnelle, passionnée et extrêmement sympathique et surtout passionnante. Je vous présente Agnès Rignier.
Bonjour.
Bonjour Agnès. Comme le veut la coutume, je vous laisse vous présenter. Qui êtes-vous, chère Agnès ?
Bon, question extrêmement difficile. Hein. Je pense que résoudre le théorème de Fermat à côté, c'est plus simple. Non, je rigole. Comment me présenter ? Ben, je suis mathématicienne, enfin plus exactement, je suis professeur. J'étais professeur de mathématiques. J'ai jamais inventé de théorème, donc est-ce qu'un mathématicien c'est quelqu'un qui invente un théorème ? Moi, pour moi, oui, mais voilà. Je suis donc je fais des maths et en fait depuis quelques temps j'ai quitté la voie classique de l'enseignement pour créer un centre, on va dire un centre de traitement du blocage en maths, maths sans stress. Et puis, à partir de là, je me suis amusée à flâner mathématiquement, justement, et essayer de chercher un peu comment donner le goût des maths, comment jouer avec les maths, comment créer avec les maths. Et je pense que je suis aussi une artiste, et du coup, les mathématiques sont un média aussi pour moi, pour créer.
En préparant l'émission, vous m'avez dit, j'ai toujours voulu être psychanalyste et artiste, et je vous laisse finir cette phrase. Vous avez...
Oui, parce que en fait, finalement, il y a une chose que j'ai partagée avec très peu de personnes, mais paradoxalement, même si je suis agrégée de maths, j'ai un problème avec le calcul. Voilà. Alors à mon époque, c'était, j'aurais dit, je suis une quiche en calcul mental, mais actuellement, j'ai trouvé une terminologie plus élégante et je dirais que je suis dyscalculique. Donc, toujours est-il que, quoi qu'il en soit, j'ai une forme de stress des calculs mentaux, genre on peut me poser 3 fois 5, je suis un peu perdue. Par contre, on me demande la somme des 1 sur N2, je sais que ça fait pi carré sur 6. Voilà, c'est une question de concept. Donc voilà, je dirais que je suis dyscalculique, donc tout ça pour rassurer toutes les personnes qui ont du mal avec le calcul mental. Ben, les maths, c'est pas du tout du calcul mental. Enfin, pas que.
C'est une des petites parties des mathématiques, le calcul mental.
En fait, la plupart des mathématiciens, ils n'aiment pas spécialement le calcul mental. Hein. Ils aiment calculer avec des lettres, hein, avec des tas de symboles mystérieux, des intégrales, des sommes, des lettres grecques, l'infini. Mais bon, genre 3 fois 5, s'en fout un peu.
On s'en fiche un peu, effectivement. Dans
bon,
les
ça fait 15 grecques, hein, quand même, je le sais.
Oui, ça fait 15. Alors, on pourrait dire 8 fois 7, 56. Alors moi, c'est le livre, c'est contraire. Moi, les mathématiques de tête, ça va, c'est plutôt... Dès qu'il y a des lettres, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est un petit peu ce qui ressort quand on en parle à beaucoup de personnes. Dès qu'on commence à intégrer des lettres, a priori, les personnes se disent que les maths deviennent excessivement compliquées. Et pourtant, la plus connue, qui s'appelle quand même pi. Et comme dit, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais a priori, l'humanité serait cachée complètement dans pi. Donc, voilà, on peut tout y trouver dans les maths.
A priori, je crois, ne pas dire de bêtises, que c'est un nombre univers, en tout cas dans lequel on peut trouver toutes les séquences de nombres possibles. Donc si on prend l'idée que tout peut être codé par des nombres, bah, du coup, effectivement, tout peut se trouver dans le nombre pi. Ça fait penser à la bibliothèque de Borges, là, avec le livre qui contient tous les livres, où toutes les chaînes de caractères se trouvent, donc forcément, on trouve tous les livres. Voilà, ben, effectivement, c'est le cas.
D'accord, alors pour commencer, le premier thème, nous allons parler un peu poésie, mathématiques, utiliser les symboles mathématiques pour leur beauté. Alors effectivement, toujours en préparant l'émission, j'ai regardé un petit peu ce que vous faisiez, et j'ai vu deux, trois petites choses, énormément de choses intéressantes. J'en ai noté deux, trois, notamment l'arbre pythagoricien. C'est assez simple. Enfin, quand on reprend depuis le début, c'est assez simple à faire. Effectivement, lui-même paraît extraordinaire. C'est effectivement extraordinaire, mais la base est tellement simple que si on nous apprenait à décortiquer énormément de choses ou nous apprendre plutôt que nous faire apprendre, nous faire comprendre, ce serait quand même beaucoup mieux. J'ai vu aussi la spirale d'or, les pavages de l'Alhambra. C'est magnifique. Ça, on se demande, on se dit qu'il y a un travail colossal, mais si on arrive, on revient au bout du bout, au tout début, c'est beaucoup plus simple. Je crois que vous êtes poétesse. J'ai lu quelques poèmes alors, de différents types.
En tout cas, moi, ce qui m'a énormément plu dans les mathématiques, donc c'est pas le calcul, comme vous avez compris, mais c'est la poésie, justement. Et j'aime bien citer Sofia Kovalevskaya, dont on aura peut-être l'occasion de reparler, qui dit « Nul ne peut être mathématicien s'il n'est poète dans l'âme ». Et en fait, moi, j'ai été tout de suite attirée par le langage mathématique qui mêle les mots du français, en fait, mais les utilise dans un autre contexte. Et moi, ça m'a fait rêver. Et quand j'étais en prépa, je me rappelle très bien des parties qui étaient à la fois ouvertes et fermées. Et je trouvais ça... Ça ouvrait tout un monde, quoi. Des choses qui étaient impossibles dans la vraie vie, qui devenaient possibles dans le monde mathématique. Et donc voilà, ça c'est le premier aspect qui me plaisait. Alors non pas le côté rimé, hein, parce que quand on parle de poésie et de maths, on peut penser à la versification, au sonnet, et puis il y a quatre vers, trois, avec les rimes, etc. Enfin, certes, il y a des mathématiques, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment à la fois la liberté et la musicalité des mots. En fait, j'ai essayé, en préparant l'émission, puisque moi-même, j'ai un peu préparé aussi, de chercher des phrases qui me faisaient rêver, et des phrases qui sont mathématiques, mais par exemple, dans un espace de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Du coup, je trouve, par exemple, cette phrase assez délicieuse à notre époque où on remet en cause toutes les normes, voilà. Ou alors, par exemple, un truc que je trouvais très rigolo quand j'étais jeune, c'était, bon, vous n'allez pas rire, hein, je vous dis tout de suite, l'humour des mathématiciens est très très peu compris ailleurs, mais bon, l'ensemble des nombres complexes est le corps de rupture de R crochet grand X par X carré plus 1. Voilà, ce concept de corps de rupture, je trouvais ça fabuleux. Et qu'est-ce que j'ai noté aussi, l'exponentielle et la bijection réciproque du logarithme, où deux matrices semblables représentent le même endomorphisme dans des bases différentes. Vous voyez, les mots du français qui interviennent et en même temps, bah, du coup, ça peut faire rêver. Donc voilà, ça pour moi, c'est un peu le point de départ de ce que j'aime. Quand j'étais jeune, j'aimais la poésie, mais plutôt la poésie surréaliste. J'aimais Breton, Éluard, Supervielle, tout ce qui est... Enfin, j'aimais pas les cadres, bon, ce qui est un peu bizarre par rapport aux maths, mais en fait, justement, c'est faussement paradoxal, parce que dans les maths, il y a pas mal de liberté. Mais voilà, donc du coup, je suis partie sur... effectivement, j'écris des poèmes mathématiques.
D'accord. Alors, tout à l'heure, vous parliez de Sofia Kovalevskaya.
Oui.
D'où... Qui est-elle? Ou alors, très simplement, pourquoi avoir choisi comme phrase qui orne le frontispice de votre site internet, cette phrase de Sofia Kovalevskaya?
Parce que déjà, il y a assez peu de femmes connues. Bon, j'espère que ça va changer, mais c'est vrai que ça a été très, très compliqué pour les femmes de faire des mathématiques. Donc, Sofia Kovalevskaya, elle est du début du XXe siècle. C'est la première ou la deuxième femme à avoir eu un poste dans une université. Donc voilà, c'est juste pour dire la difficulté à faire des mathématiques. Et ce que j'aime chez cette femme, c'est qu'elle est multiple, en fait. C'est une mathématicienne, mais elle a aussi écrit des pièces, elle a aussi une vie très romanesque. Elle était russe, elle a fui la Russie, elle était anarchiste, elle s'est retrouvée à Paris, elle s'est mariée, elle a divorcé. Enfin, vous voyez, c'est à la fois une mathématicienne, mais aussi une femme qui a une vie extrêmement... tourbillonnante, on va dire. Cette phrase pour moi, poésie et maths, voilà, c'est deux choses que je trouve extraordinaires. Donc voilà, ça m'a plu.
Je suis tout à fait d'accord. Quand on voit vos présentations, vos dessins, vos poèmes, J'ai particulièrement aimé sur un des documents que vous m'avez envoyé. Ça m'a donné aussi une idée pour quelques étudiants, pour les faire sortir un petit peu de leur carcan. Je reviendrai après sur liberté et cadre, maths.
On va revenir. Ça marche.
J'ai adoré le bas de la première page, ou deuxième page, je crois, de votre document, sur lequel vous mettiez un corpus de mots relatifs aux mathématiques.
Ah oui.
Pour ensuite, ouais. Et je trouve ça génial de pouvoir se dire un jour, tiens, il faudrait que sur un thème précis, ou un thème, j'essaie de trouver tous les mots.
Ah.
Le maximum de mots qui puissent avoir une relation avec ce mot central, de ce thème central qui permet de peut-être de découvrir des choses qu'on n'imagine même pas.
Mmh.
Alors comment vous est venue l'idée de ce corpus ?
Alors là, ça c'est une histoire, c'est le premier livre que j'ai écrit en fait. L'idée c'était, en fait voilà, l'anecdote c'est la suivante. J'étais en cours de maths, donc je faisais un TD. C'était avec des élèves de prépa BL à Saint-Sernin. Donc des élèves qui à la fois s'exprimaient facilement, ce qui n'était pas forcément le cas des élèves scientifiques. Il y avait pas mal d'échanges avec eux et ils manipulaient bien la langue aussi. Donc c'était intéressant. Puis donc du coup, bref, j'avais posé un exercice assez... Et puis premier cas, en tant que bonne prof de maths, premier cas, on va dire, classique et simple... Et c'était un truc sur les parties des ensembles. Et je dis, premier cas, la partie vide. Voilà, qu'est-ce que ça donne dans le cas de la partie vide ? Et alors là, une élève, elle reste bloquée. Alors que vraiment, c'était normalement la question la plus simple, quoi. Et du coup, je discute avec elle. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça marche pas ? Mais elle me dit, mais je comprends pas. Et puis moi, je comprenais pas ce qu'elle comprenait pas. Donc on a échangé comme ça, un petit peu de manière bizarre pendant 10 minutes. Puis après, j'ai compris finalement que le concept de partie vide, ça lui allait pas, parce qu'une partie, c'est pas vide. Alors que pour un mathématicien, une partie, ça peut être vide et ça peut être l'ensemble en totalité. Du coup, en revenant chez moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, la plupart des mots étaient des mots du français. Et là, je me suis lancée dans l'idée de faire un dictionnaire français-maths. Voilà, donc prendre tous les mots des maths et voir quel sens ils avaient en français et en quoi ça pouvait... du coup, en fait, c'est ce qui m'arrivait quand j'étais jeune. Hein. C'était des mots qui avaient un sens en français, comme fermé, ouvert, et qui avaient un autre sens en maths. Et quand on télescopait les deux, moi, je trouvais ça super poétique. Bon, elle, cette élève, elle comprenait pas. Et du coup, après, j'ai fait ce livre en collaboration avec un collègue. On s'est amusé, quoi, à trouver tous les mots qui sont à la fois en français et en maths, et donc à voir en quoi ça peut aider l'élève ou pas. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai cité des phrases qui me faisaient rêver comme « matrice semblable ». Bon, « matrice », ça a quand même un sens assez lourd en français. « Semblable » aussi. Alors qu'en mathématiques, des matrices semblables, donc des matrices, c'est un tableau de nombres, deux matrices semblables, elles ne se ressemblent pas du tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, les élèves peuvent être parfois induits en erreur par ça. Donc, bref, du coup, c'était ça l'idée. Donc, après, l'idée, pour revenir à la poésie... Bah, du coup, j'ai pris tous ces mots qui ont un... Alors, c'est pas exhaustif, hein, mais j'en avais déjà repéré une bonne centaine. Ces mots qui ont un double sens. Et puis, donc le jeu, c'est des jeux que j'ai fait dans le cadre du Festival des maths organisé par l'association Les Maths en Scène, par exemple, ou dans d'autres cadres, pour faire des ateliers. Donc le jeu, c'est on pioche trois mots au hasard et on écrit un petit poème avec ça. J'ai fait ça avec des enfants et ça marche super bien. Je vous ai apporté tout à l'heure des exemples de phrases qui ont été construites par des petits élèves de CE2. Et...
Ah, pourquoi pas ?
Vas-y, maintenant.
Oui,
maintenant
sûr, oui, oui.
Bon, par exemple, elle avait les mots famille, identité, tribu, couple, hérédité, qui sont des mots des maths, hein, tous. Et elle a écrit une famille, c'est une identité, une tribu, un couple, une hérédité. Je trouve ça génial.
Quel âge ?
CE2.
Oui, c'est jeune.
C'est énorme. Alors après, ça c'est Maxime, CE2, l'espérance c'est d'être ensemble dans l'égalité.
C'est génial.
Les mots mathématiques c'était espérance, ensemble, égalité. Ça a vachement de sens en plus. Alors lui c'est en sixième, il disait analyse négative mais espérance positive, espace naturel et astuce immortelle. Voilà, donc les mots c'était analyse négative, espérance positive, espace et naturel. Donc il a pratiquement tout utilisé. Oui,
mais
c'est marrant.
Être capable de les mettre avec un sens, quelque chose qui a du sens.
Oui, j'ai trouvé ça assez joli. Si vous voulez, pour finir, j'ai aussi « La liberté, c'est de l'hérédité. L'égalité, c'est qu'une dérivée. Le vide, c'est négatif. Moi, je te le dis, l'infinitif, les mathématiques, c'est très logique. » Bon, après, c'est un... Vous voyez, mais j'aime bien la phrase, par exemple, « L'égalité, c'est qu'un dérivé. » Enfin, c'est marrant, quoi. Voilà. Je trouve ça... La poésie, ça nous dépasse, en fait. C'est ça qui est génial.
Oui, c'est pas rationnel.
Oui, c'est ça. C'est comme s'il y a une espèce de double voix. À la fois, on dit des mots. Puis en fait, il y a un sens qu'on ne maîtrise pas pratiquement.
Alors, je vais revenir sur liberté, sur cadre.
Ouais.
Je crois que oui, les mathématiciens sont assez forts pour... je ne sais plus où je l'ai entendu, mais j'ai cru comprendre que les mathématiciens, lorsqu'il y avait un problème, inventaient la solution. Là, c'est peut-être vous qui me l'avez
oui.
dit. C'est fort probable.
Enfin, je ne suis sûrement pas la seule à dire ça, mais oui, c'est dans le dernier article que j'ai écrit sur créativité et mathématiques. Je trouve ça vraiment génial. On prend par exemple les nombres complexes qui font peur à... Bah, après, on les voit en terminale, mais en général, c'est à ce moment-là, ça commence à faire peur. Déjà, tiens, le langage complexe. Pourquoi on dit les nombres complexes ? Bon, enfin, en fait, il y a une raison complexe, c'est qu'ils sont juste composés. Mais moi, je maintiens que si on les avait appelés autrement, les élèves n'auraient pas de problème
avec. Les nombres complexes, pour ceux qui ne sont pas très bons, ce sont lesquels ? Ce sont ceux qui ont moins ou ce sont...
Ah, les nombres complexes, ce sont les nombres au-delà des nombres réels qu'on manipule quotidiennement, on va dire. C'est...
Par exemple, un tiers.
Ah non, enfin un tiers c'est un nombre complexe, mais c'est un nombre réel. Un tiers, les nombres complexes, c'est les nombres i carré égale moins 1, par exemple, dont le carré peut être égal à moins 1. On sort de l'ensemble des nombres réels. Et justement, ben, par exemple, ça c'était, alors je n'ai pas toujours la mémoire des dates, etc., mais enfin c'était au XVIe siècle, on cherchait à résoudre des équations. Les équations, c'était des équations du troisième degré, et il y avait une méthode, la méthode de Cardan, qui marchait très bien parce qu'à un moment, il fallait prendre la racine carrée d'un nombre donc positif. Donc là, ça marchait très bien. Mais ça ne marchait pas, évidemment, quand ils tombaient sur un nombre négatif, ils ne pouvaient pas prendre la racine carrée. Donc bon, ils étaient super embêtés. Pourtant, et c'est là où je trouve que c'est ultra fort, quoi. Il y a quelque chose de vraiment magnifique. Ils se sont dit, bah tant pis, allons-y. Alors, ils ont fait ça tout seuls dans leur coin. Enfin, ils avaient vachement la trouille, quoi. Ils se sont dit, et si on imaginait un nombre dont... etc. Donc, ils ont fait leur calcul avec cette espèce de faux nombre à l'époque. Et puis, en fait, ça a marché. Ils sont tombés sur une solution réelle, on va dire. Ouais, c'est génial, cette espèce de... Faut être gonflé, quoi, voilà. C'est le côté gonflé, je trouve. Parce que on présente toujours les mathématiques comme un truc où il y a plein de règles, attention. Alors, oui, il y a des règles, hein, bien sûr. Mais en même temps, il y a une grande liberté. Donc peut-être un exemple plus simple pour les auditeurs, c'est par exemple les nombres négatifs ont été inventés pour pouvoir faire par exemple l'opération 3 moins 5. Et on peut faire 5 moins 3, et si on faisait 3 moins 5, ça donnerait quoi ? Et pour revenir, je faisais un lien avec le langage, oui, parce que en fait ce qui est intéressant, c'est que les mathématiciens, ils poussent les choses aux extrêmes. Vous voyez, vous prenez une partie d'un ensemble, ça repose sur l'idée que tout le monde se fait d'une partie. Hein. Je prends une partie de mon argent pour faire quelque chose. On s'imagine bien qu'on ne va pas tout prendre ni rien prendre. Mais les mathématiciens, et si on poussait un peu la définition dans ces retranchements ? Et si on imaginait un nombre qui faisait ça ? Qu'est-ce que ça donnerait ? Alors, des fois, ça donne rien et on abandonne. Des fois, ça donne des choses qui sont extrêmement fécondes.
D'accord. Et donc, ce qui serait positif, c'est qu'un jour, quelqu'un explique assez rapidement aux élèves, lorsqu'ils commencent à faire des mathématiques, que ça n'est pas que dans le cadre d'un cadre rigide, mais que si vous sortez un petit peu de ce contexte, vous pouvez, avec un peu d'imagination, faire un peu plus que les mathématiques basiques que l'on enseigne en cours. Mais il faut être capable de pouvoir sortir. C'est très difficile même au niveau des profs, au niveau de l'enseignement.
Ben oui, alors si on se branche sur l'enseignement, là ça va être... faudra 3 heures d'émission. Non, mais bon, globalement, oui, en fait, il y a une espèce d'injonction contradictoire, quoi. On veut à la fois que les élèves soient capables de résoudre des problèmes de mathématiques bien cadrés, et donc on va leur donner des recettes. Et alors que les mathématiques, c'est pas ça. C'est certes, ça permet de résoudre des problèmes, mais ça permet aussi d'ouvrir des nouveaux mondes. Et ben, pourquoi c'est pas enseigné comme ça ? Mais presque, j'ai envie de dire, la philo aussi pourrait être enseignée différemment. En fait, on pourrait enseigner complètement différemment, surtout à notre époque où le savoir, j'ai envie de dire, traîne partout. Ce qu'il faudrait enseigner, c'est le processus, c'est l'envie, c'est d'autres choses que ce qu'on fait. Mais bon, Voilà, c'est pour ça que je suis partie aussi.
D'accord, alors point sur l'enseignement, parce qu'effectivement...
Oui, non, mais c'est trop, c'est compliqué. Après, il y a des super profs qui font des choses magnifiques, il faut leur rendre hommage.
Tout à fait. Eh bien, nous allons faire la première pause musicale. Donc, chère Agnès, je vous laisse présenter la chanson que vous avez choisie.
Ok, c'est Feeling Good de Nina Simone. Bon, ben, Nina Simone, ça m'a accompagnée dans mon enfance. C'était un des vinyles que mes parents avaient. Et je trouvais que, voilà, j'aimais sa voix chaude et envoûtante. Et cette chanson en particulier, je trouve qu'elle donne bien la pêche. Et puis, Nina Simone, c'est une figure de femme aussi que je trouve très, très emblématique, que j'aime beaucoup. Voilà. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Merci Agnès pour cette proposition musicale qui m'a permis de planer parmi les aigles. Alors continuons. Et alors avant de vous poser une question que nous avons échangé, sur laquelle nous avons échangé pendant cette pause, je voulais revenir un peu sur tout ce qui est poésie. Vous m'avez parlé de poésie. Mm-hmm. J'ai vu aussi que vous aviez écrit beaucoup des mini-poésies japonaises, style haïku.
Oui, tout à fait.
Alors, pas exactement le 5-7-5, mais j'ai essayé, ça m'a l'air très, très compliqué. Et j'en ai trouvé quelques-unes qui étaient juste magnifiques. Alors, je ne sais pas si vous en avez des
préférées. Ah bah moi, j'en ai, mais allez-y, hein, s'il y en a qui vous plaisent.
Alors, moi, la première... Enfin, je ne sais pas si on dit le ou la. Un haïku, j'en sais rien. Bon.
Un haïku, pardon.
Le premier, dans ce monde en décomposition, l'égalité, l'inconnu de l'équation. En la lisant, j'ai trouvé ça juste d'une puissance terrible. Et le deuxième, c'est en arrivant au sommet, j'entrevois la possibilité d'inverser les limites. Superbe. Alors, je ne sais pas si vous en avez d'autres. Ou est-ce que
bah, j'en ai plein d'autres, mais bon, celui-là, c'est vrai que ces deux-là, ils sont chouettes. Ben, par exemple, un peu plus chaud, Nos corps enlacés, sans ordre, perdent la raison aux portes de l'extase. Alors, ça reste mathématique parce que corps, c'est un mot mathématique.
Oui.
Ordre aussi, raison aussi. Bon, extase, non, par contre, je connais pas ce mot dans le cadre des mathématiques, mais bon, ça reste à inventer.
Voilà, c'est ça, ça peut être un nouveau concept.
Oui, oui, tout à fait.
À imaginer.
Après, qu'est-ce que j'aimais bien aussi avec application, je m'attelle à mettre en ordre le complémentaire de mes jours. Voilà.
Ah oui.
Bon. Donc.
D'accord. Parce que, alors, pour la question qu'on a, sur laquelle nous avons échangé un peu, ce serait quelle serait la première étape pour un auditeur qui aura apprécié l'émission et qui souhaite poursuivre cette flânerie et découvrir les maths, mais de façon un peu différente.
Alors, bon, bah écoutez, moi j'ai pensé à... mais c'est vraiment plus découvrir le monde mathématique et des concepts mathématiques tout en étant très bien expliqué et accessible à tout le monde, hein, qui n'a pas besoin d'avoir, d'être bon en maths pour ça. Moi j'aime bien le livre Le théorème du perroquet de Denis Gage, et de manière générale tous les livres de Denis Gage sont très intéressants. C'est des livres qui mêlent histoire et mathématiques. Après, il y a la chaîne YouTube de Micmath, de Michael Launay, où c'est des vidéos expliquant des concepts mathématiques de manière à la fois enfin, très parlante, on va dire. J'aime bien aussi les livres de Stella Baruch. Alors, Stella Baruch, c'est une dame maintenant qui a un certain âge et c'est vraiment la pionnière de déblocage en maths, on va dire. Voilà, elle avait écrit un livre assez connu à l'époque qui s'appelait L'âge du capitaine, où elle avait mis un peu en évidence que les élèves, quand on leur demandait de faire des maths, ils étaient capables de répondre n'importe quoi parce qu'il fallait absolument répondre quelque chose et qu'ils n'avaient pas accès au sens. Donc c'est un peu la première à avoir parlé des blocages en maths, on va dire. Donc moi, c'est une figure qui m'inspire, hein, puisque finalement, c'est ce que je fais aussi au quotidien. Et elle a écrit, par exemple, des petits livres récemment sur les nombres. Même, elle a écrit un petit livre sur les nombres de 1 à 10. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire sur les nombres de 1 à 10. Voilà. Et puis je pensais, alors c'est un peu plus technique, mais en même temps c'est vraiment très chouette, c'est le livre de Cédric Villani. Donc Cédric Villani, mathématicien, un des plus grands mathématiciens au monde, hein, puisqu'il a eu la médaille Fields, qui est une distinction accordée tous les 4 ans à bon, parfois jusqu'à 3-4 mathématiciens, mais donc finalement il n'y en a pas énormément, hein, depuis, ça doit faire depuis les années 30 je crois. C'est un peu le Nobel des mathématiques si vous voulez. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle Théorème vivant, où en fait, il explique toute la démarche intellectuelle qu'il a menée de un jour assis sur une table avec un collègue, il a eu une idée, et jusqu'à toute la réalisation, la recherche, les questions, les angoisses, jusqu'à avoir la médaille Fields. Alors, il faut accepter de sauter les passages un peu techniques, et on voit bien qu'est-ce que c'est faire de la recherche, enfin, qu'est-ce que c'est le travail d'un chercheur de mathématiques. Moi, ce livre, j'ai beaucoup apprécié aussi. Bon, après, il y a pas mal de choses. Ah oui, il y avait aussi Arte, en ce moment, fait des mini-séries télé sur des concepts mathématiques qui sont assez chouettes. Donc, je ne sais pas si vous pouvez mettre des liens dans le podcast, enfin, à la fin, ou sur...
On va voir.
Il y a Voyage au pays des maths.
D'accord.
Sur Arte, art.tv. Bon, voilà, il y a pas mal de... C'est des petites vidéos sympas. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont chouettes.
D'accord, bah merci pour toutes ces références qui permettront à certains de peut-être continuer à...
Après, il y a d'autres façons d'avoir le goût des maths, dont on va peut-être parler dans l'émission, qui sont moins académiques, on va dire.
D'accord, alors c'est peut-être la suite. Je voulais juste parler d'un sujet que j'aime bien. Et je pense que vous le connaissez parce que vous avez fait un superbe dessin sur les nombres premiers.
Ah.
C'est juste incroyable ce que l'on peut imaginer dans les nombres premiers et que certaines anecdotes peuvent avoir... vous m'avez parlé d'une anecdote qui était juste
alors,
assez extraordinaire.
Les nombres premiers, donc pour vos auditeurs, les nombres premiers, ce sont des nombres qui n'ont pas d'autres diviseurs que eux-mêmes et 1. Par exemple, 3, 5, 7... Voilà, on ne peut pas les décomposer. En fait, vous prenez des billes et puis vous essayez de... Je ne sais pas, vous prenez 12 billes, vous essayez de faire un carré, enfin de faire une figure géométrique rectangulaire. vous pouvez en mettre 3 fois 4 ou 2 fois 6, etc. Vous prenez 13 billes, ben non, vous pouvez juste faire une ligne. C'est ça le concept de nombre premier. Alors, c'est, ça aussi, c'est quand même génial, parce que on a inventé les nombres, on peut comprendre, pour compter les moutons, enfin ça c'est assez basique, on sait pourquoi on les a inventés, ces nombres naturels. Comment ça se fait que parmi ces nombres, on a l'impression que c'est une création totalement humaine et contrôlée? Bah, parmi ces nombres, il y a des nombres premiers. Ces nombres premiers, ils servent à engendrer tous les autres nombres, parce que n'importe quel nombre s'écrit comme produit de nombres premiers. Donc déjà, ça, c'est assez fabuleux. Et actuellement, à notre époque, les nombres premiers ont une importance capitale parce qu'ils sont, alors je passe les détails techniques, mais ils sont utilisés dans tout ce qui est codage d'informations, ce qui est assez crucial. Donc, c'est très difficile de savoir si un nombre est premier. La seule méthode, vraiment, c'est de diviser, enfin d'essayer tous les diviseurs, et puis si ça marche pas, ben, en gros, il est premier. Donc, on peut encore le faire assez facilement pour les nombres à 3 chiffres ou 4 chiffres, mais... Alors moi, il y a une anecdote, du coup, que j'ai tirée du livre d'Oliver Sacks, « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau », donc déjà le titre assez marrant, qui raconte des tas d'anecdotes avec des gens qui ont des cerveaux... un peu différent, enfin, soit qui ont eu des problèmes, des accidents, etc. Donc, c'est assez particulier. Et il raconte une anecdote avec des frères jumeaux qui étaient autistes. Alors, c'est dans les années 60. Hein. Ils étaient perdus dans un hôpital où on ne s'intéressait pas tellement à eux. Et surtout, si on avait repéré que c'était qu'ils savaient à la fois, ben, c'était le genre d'autiste où vous faites tomber une boîte d'allumettes, ils savent tout de suite combien il y a d'allumettes. Et puis, ils savaient aussi tout à fait, vous leur donnez n'importe quelle date, ils savaient quel jour c'était, etc. Mais ce Oliver Sacks qui traînait dans les couloirs de l'hôpital les a rencontrés, les deux frères là, et ils jouaient à s'envoyer des nombres, quoi. Il y en a un qui disait, alors des nombres énormes, hein, 111, etc. Et puis l'autre, il passait quelques secondes à réfléchir, puis avec un air gourmand, il envoyait un autre nombre, etc. Donc Oliver Sacks s'est approché d'eux et il s'est rendu compte qu'il s'envoyait des nombres premiers, en fait. Voilà, donc du coup, lui, il a voulu... alors, il explique le plaisir qu'il prenait, etc. Il a voulu jouer avec eux. Il a été chercher un bouquin de nombres premiers, parce que lui, évidemment, était bien incapable de les dire. Donc au début, ils ont un petit peu été surpris. Puis finalement, tout de suite, ils ont accroché. Et puis après, ils étaient capables de s'envoyer des nombres premiers à 12, 20 chiffres. Choses qui sont... même pour un ordinateur, ça reste assez long à faire. Et comment ça se fait? Comment ça se fait que dans leur tête... Donc, ils ont expliqué qu'ils avaient une espèce de paysage de nombres. Ils voyaient des nombres comme un paysage dans leur tête. Comment ça se fait que les nombres premiers apparaissaient différemment? Enfin, moi, je n'ai pas de réponse à ça et je trouve ça scotchant, quoi. C'est des choses qui sont vraiment extrêmement étonnantes.
Ils n'ont jamais appris.
Bah non, a priori, ils n'ont jamais spécial. Alors, ils ont dû apprendre à compter, peut-être,
oui, normal,
hein, j'en sais rien, mais bon, faudrait que je relis. Alors, du coup, il faudrait que je retrouve l'article. Non, mais c'était des gens qui étaient considérés comme des idiots. Hein.
Oui, comme des débiles mentaux. Oui,
comme des débiles mentaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'avaient pas fait de doctorat de maths ni quoi que ce soit, et je ne sais même pas s'ils connaissaient le concept de nombre premier, s'ils auraient été capables de dire ce qu'est un nombre premier. Mais n'empêche qu'ils s'envoyaient ces nombres-là, qui apparaissaient dans leur cerveau différemment des autres.
Donc les maths sont dans notre cerveau depuis potentiellement toujours. Ou une
oui.
partie.
Bah, en fait, c'est ce qui est mis en évidence par Stanislas Dehaene et peut-être d'autres personnes aussi. Il a fait des expériences sur les bébés, montrant qu'ils connaissent les nombres de 1 à 3 au moins, qu'ils connaissent un peu les probabilités, qu'ils savent aussi reconnaître les formes géométriques. Bon, on n'est pas les seuls, hein, nous les humains, hein, les animaux et aussi les oiseaux, par exemple, savent compter. Alors, les corneilles, par exemple, elles savent très bien compter jusqu'à 6, des choses comme ça. Mais du coup, oui, l'idée, c'est comme si on venait au monde avec une sorte de prédisposition naturelle et puis le bagage minimum pour faire des mathématiques. Ce qui n'est pas évident, parce que, par exemple, pourquoi on a des carrés, des rectangles, des ronds? Dans la nature, il n'y en a pas. Enfin, le rond, oui, ok, la lune peut-être, mais les carrés, les rectangles, les angles droits, ça n'existe pas dans la nature. Donc comment on a fait que nous, on a ce concept dans notre tête?
C'est une création purement humaine, a priori.
Bah, ouais, a priori.
Enfin, a priori.
En tout cas, ouais, il y a pas mal de choses que je trouve extrêmement mystérieuses. Cela dit, ça, c'est la bonne nouvelle. La bosse des maths, ça n'existe pas, en fait. Tout le monde peut faire des maths. Tout le monde a le bagage minimum pour faire des maths. Après, il faut avoir envie... Et ça peut prendre plus ou moins de temps, hein, suivant les individus, mais voilà. C'est pas, il n'y a pas de moi, je ne pourrais jamais y arriver. Mon cerveau n'est pas fait pour.
Voilà, et cerveau masculin et féminin, bien entendu. Hein, parce que...
oui, alors là, si vous me prenez sur ce terrain, ça va mal passer, mal finir. Alors après, ce qui est sûr, on peut parler un peu quand même des maths et genres, parce que ça reste un problème à notre époque. Moi, quand j'étais étudiante, donc en classe, j'ai fait prépa et l'école normale après, on était très très peu de filles, à peu près 10% de filles en classe prépa. Et en plus, quand j'ai intégré l'école normale, c'était la première année où ça devenait mixte. Avant, il y avait, c'était Saint-Cloud et Fontenay, garçons-filles. Bon, c'était devenu mixte. En maths, il y avait deux filles sur 40, quoi. Donc, ce qui était logique vu la proportion de filles qui passaient le concours. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'au long de ma carrière, et ça n'a pas tellement changé, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, il n'y a pas tellement plus de filles qui font des études scientifiques et des études de maths en particulier. Et, c'est très genré parce qu'on a remarqué que quand à l'école primaire, alors donc il y a des études qui ont été faites sur le sujet, dont je n'ai pas les références, à l'école primaire, si vous faites un exercice, par exemple, vous faites reproduire une figure avec une symétrie. Si vous dites que c'est un exercice de maths, bah, les garçons vont le faire et vont bien réussir. Si vous dites que c'est un exercice de dessin, les filles vont le faire et vont bien le réussir. Vous voyez ? Il y a vraiment un truc genré qui est incroyable. Et il y a plein de gens qui essayent de lutter contre ça, mais il y a des associations, il y a Femmes et Maths, il y a plein d'associations chouettes. Mais alors pourquoi ça reste genré, ça comme ça, ça j'en sais rien. Et c'est un vrai problème parce que je pense que, ce serait bien qu'il y ait aussi des femmes qui soient plus reconnues à faire des maths. Et une des raisons aussi, c'est qu'on ne parle pas assez de mathématiciennes. Alors il y en a peut-être, il y en a pas eu beaucoup parce que de toute façon les femmes n'avaient pas la possibilité de faire des études, n'étaient pas prises au sérieux. Mais il y en a quand même quelques-unes et c'est important de les mettre en avant. C'est pour ça que moi j'aime bien Sofia Kovalevskaya.
Ah, tout à fait, non, mais c'est tout à fait vrai. Dès que vous interrogez une jeune fille ou une adolescente, tu veux faire quoi plus tard? Bah, tout sauf des maths, parce que je suis pas bonne en maths. Ce qui est complètement débile, mais c'est ancré.
Ah ouais, c'est hyper ancré. Ouais.
Toujours en préparant l'émission, je suis tombé sur un terme qui peut faire peur, qui est bizarre comme terme, mais qui donne des choses extraordinaires, les fractales.
Ah.
Et alors, je repense à ça parce que la première chose qui m'est venue en pensant aux fractales, alors ça va peut-être vous faire rigoler, mais c'est le chou romanesco.
Ah mais j'allais vous le dire, oui, tout à fait.
Clairement, quand on le
voit, c'est un fractal.
Voilà, c'est un fractal et c'est juste incroyable. Donc avec les maths, on peut même faire de la cuisine. Voilà, on peut même faire de la botanique. Et les fractales, ça vient d'où ça? Parce que le mot est un peu compliqué. Fractal, c'est un peu violent, mais alors ça donne des formes extraordinaires.
En fait, un fractal, c'est l'exemple type, c'est...
Non, c'est un fractal. J'aurais dit une fractale déjà. Ça commence
bien. Je crois que c'est un. Alors après, ça peut être une figure fractale
oui.
ou un fractal. En fait, l'exemple type, c'est l'exemple de la côte. Si on veut mesurer la côte bretonne, donc il y a un peu, il y a pas mal de rochers, etc. En fait, ça va. On se rend compte que ça dépend à quel point de vue. Si on zoome, quoi. Si on zoome sur une bout de la côte bretonne, on s'aperçoit que c'est très 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 découpé à nouveau. Et si on rezoome, c'est à nouveau très découpé, etc. Donc, en fait, c'est une figure auto-similaire. C'est-à-dire, vous prenez un bout de la figure, vous retrouvez la totalité de la figure. Vous prenez un bout du chou romanesco, vous retrouvez tout le chou romanesco. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée des figures fractales. Et ça n'a pu prendre son essor qu'avec le développement de l'imagerie informatique, parce que pour le représenter, avant, bon, le flocon auquel vous faites allusion, vous prenez un triangle et puis... sur chaque côté, on enlève le tiers et on reconstruit un petit triangle équilatéral. Et puis après, on fait ça un certain nombre de fois, jusqu'à l'infini. Le fractal, c'est jusqu'à l'infini, en fait. Hein, c'est la figure théorique. Ça fait une sorte de flocon de neige, quoi. Bon, ça, c'est assez facile à dessiner. Ou l'arbre pythagoricien dont vous parliez tout à l'heure, où à partir d'un carré et de deux triangles rectangles qui représentent le théorème de Pythagore, on poursuit ces figures. Ça, c'est assez facile à faire. Mais après, il y a des tas d'autres fractales. Alors du coup, fractal, je pense, on dit au pluriel, qui sont impossibles à faire autrement qu'avec l'informatique. Alors le père des fractales, c'est Mandelbrot, qui est un mathématicien français, un polytechnicien, je crois. Voilà, alors je ne sais plus pourquoi il a travaillé là-dessus, mais en tout cas, ça sert pas mal en économie aussi, pour modéliser des phénomènes un peu variants de manière assez bizarroïde, etc. Mais après, c'est passionnant, les fractales, parce que c'est vraiment un monde avec de... Par exemple, c'est des mondes avec des dimensions qui ne sont pas des nombres entiers. Enfin, c'est extraordinaire.
extraordinaire et puis ça donne des dessins.
Ah ouais, c'est
quand on les regarde, on a l'impression d'être dans un autre monde.
Ah oui, c'est ça, pas exactement.
Comme si ça n'existait pas sur Terre. C'est juste magnifique. Et en plus, souvent, il y a des couleurs extraordinaires. Donc, si vous voulez commencer les maths, vous pouvez commencer, alors peut-être pas par la théorie des fractales, mais peut-être commencer à regarder et vous verrez que
par les images,
par les images, c'est magnifique. Il y a énormément de choses.
D'ailleurs, je pense à, pour répondre à votre question tout à l'heure, il y a un site qui s'appelle Images des maths, qui est un site du CNRS et qui est un vraiment grand public. Il y a tous les niveaux d'articles. Et il y a plein d'images, donc comme son nom l'indique. Et là, vous trouverez des super belles images de fractales. Et déjà, rien que voir les images, c'est magnifique.
Je suis tout à fait d'accord.
La beauté des mathématiques.
Tout à fait, la beauté des mathématiques, dont on parlera un petit peu plus tard. Après le deuxième intermède musical, alors je vous propose de suivre, pour ce deuxième intermède, les vicissitudes d'un vampire à la tombée de la nuit.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous pages pervers, courez au cimetière, prévenez de ma part, mes amis nécrophages. Lutin, lucioles, feu follet, elfes, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu de dû me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales, égéries insatiables chevauchant des valkyries, infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes envahies par la mélancolie. Satyre, joufflu, bouc émissaire, gargouilleux émus, fier gorgone, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte. L'air tellement accablé qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il me laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques, et ne se dressait un bon dans un concert de jurons disant d'un ton pathétique. Le ciel blanchi, esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cochez lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard.
l'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.
Une vraie leçon de vocabulaire. En effet, qui d'autre que Jacques Higelin peut utiliser dans une chanson sarcophage, nécrophage, lutin, luciole, farfadet, valkyrie et frénésie bacchanale, etc., etc., etc. Alors si vous appréciez Jacques Higelin, je vous conseille de regarder sa prestation au Bataclan en octobre 2007, alors sur toutes les plateformes. Je ne les citerai pas, mais alors elle est tout simplement géniale. Bon, le seul hic, j'ai pas pu la passer aujourd'hui dans l'émission, parce qu'elle dure plus de 13 minutes. Revenons sur les mathématiques, et parlons d'un non-mathématicien, mais qui a une capacité à voir... Enfin, je ne vais pas déflorer le sujet, mais si je vous dis Daniel Tammet.
Alors Daniel Tammet, c'est quelqu'un qui est très lié aux mathématiques, même s'il n'est pas mathématicien. En fait, il s'est fait connaître, enfin, en tout cas moi je l'ai connu, parce qu'il a participé au record de celui qui apprend par cœur le plus grand nombre de décimales du nombre pi. Bon, il faut savoir que le nombre pi, il y a une espèce de secte hein, autour du nombre pi, donc j'exagère, c'est pas une secte, mais c'est un nombre qui a vraiment, qui fédère plein de mathématiciens, plein d'amateurs, etc. Et donc, je sais pas si c'est tous les 4 ans, bon bref, il y a un concours qui est organisé. Lui, je crois que c'est en 2014 ou en 2004, je sais plus, qu'il a gagné le concours, et il a quand même récité pendant 5 heures d'affilée les décimales de pi. Donc, quand même, c'est assez particulier. Alors, il expliquait que lui, en fait, pareil, c'est un peu comme les frères de tout à l'heure, sauf, bon, il est aussi autiste, mais lui, c'est un autiste de haut niveau. Et en fait, il a un rapport, j'ai envie de dire, fraternel avec les nombres. Il voit les nombres, enfin, il est doué de synesthésie. Donc ça veut dire que non seulement ils les voient, mais ils ont une couleur, une forme, une scintillance. Et c'est quelqu'un, alors c'est un peu le même mystère que les autres, que tout à l'heure, quoi. C'est quelqu'un qui, on lui pose n'importe quelle multiplication, il donne tout de suite la réponse. Et ce qui est intéressant dans Daniel Tammet, c'est qu'il explique, il a écrit des livres et il communique avec les autres pour expliquer ce qui se passe dans son esprit. Et en particulier, il a fait des tableaux que moi, j'aime beaucoup, hein, à titre personnel, qui représente ce que lui, il a dans sa tête pour quand on lui fait une multiplication. Voilà, donc c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Il a aussi appris l'islandais en une semaine. Il a écrit plusieurs romans. Enfin bon, c'est quelqu'un, il fait partie de mon top 10 des gens que j'admire.
Alors, vous parliez d'autiste de haut niveau. Donc ça veut dire que sur la courbe de Gauss, faite par Carl Friedrich Gauss, il est très à droite si on prend le QI. Ouais. Alors, Gauss est considéré, considéré, je ne sais pas si c'est considéré ou s'il a été nommé, le prince des mathématiciens. Alors Agnès, si vous aviez à définir potentiellement un roi, serait-ce Euclide, Euler, peut-être Fermat, ou un autre, ou une autre?
Alors, moi, il y a deux femmes que j'apprécie énormément, donc Sofia Kovalevskaya, dont je vous ai parlé, et Ada Lovelace aussi, qui est en fait... la première femme à avoir écrit un programme informatique. D'ailleurs, c'est assez curieux de voir, pour revenir sur la question du genre, alors dans les maths, il n'y a pas beaucoup de filles, mais en informatique, je crois qu'il y en a très très peu, alors qu'à la base, c'est vraiment une femme qui a été extrêmement importante dans le développement de cette science. D'ailleurs, il y a un langage informatique qui s'appelle ADA, qui porte son nom. Et Ada Lovelace, son père, alors qui est Lord Byron, hein, un célèbre poète maudit, anglais, l'a traité, entre guillemets, de princesse des parallélogrammes. Bon, moi, j'aime beaucoup cette femme. Et sinon, un mathématicien pour qui j'ai énormément d'affection aussi, c'est Ramanujan. Pareil, alors, finalement, il y a une espèce de logique dans les mathématiciens que j'admire. Ramanujan, lui aussi, c'est quelqu'un assez bluffant. C'est un Indien, du début du siècle, qui, c'est pas qu'il est, il a fait des maths, hein. Il aimait que les maths d'ailleurs, il a étudié, à l'école il étudiait que les maths, donc il a pas vraiment bien réussi sa scolarité. Il s'est retrouvé comptable dans une petite boîte à vivoter, Et sa chance, c'est que cette boîte a été rachetée par des Anglais. Et en fait, ce qui se passait, Ramanujan, chaque soir, il s'endormait. Et pendant la nuit, la déesse, comment elle s'appelle, j'arrive jamais à me... Ah oui, Namagiri, venait le visiter et lui donner des formules. Alors, les formules, c'est difficile de montrer à la radio, mais c'est par exemple la formule 1 moins 5 fois 1 tiers puissance 3, plus 9 fois 1 fois 3 sur 2 fois 4 puissance 3, moins 13 sur 1 fois 3 fois 5 sur 2 fois 4 fois 6 puissance 3, plus à l'infini, égale 2 sur pi. Voilà, le matin, je ne sais pas avec quoi vous vous réveillez comme pensée dans la tête. Mais bon, lui, c'était avec ça. Alors, il notait ça sur des carnets. Alors, là où lui, il avait la culture pour noter la formule 1, peut-être qu'il y a des gens à qui on envoie des formules comme ça, mais qui ne s'en rappellent pas parce que de toute façon, ils ne comprennent pas le langage. Lui, il avait cette culture-là, mais par contre, il ne savait pas du tout la démontrer, ni d'où ça lui venait. Ce n'était pas un chercheur, ce n'était pas quelqu'un qui avait un travail de recherche sur lequel il réfléchissait. Donc, il a eu plein de carnets de formules et il les a montrés à un Anglais qui travaillait du coup dans cette entreprise et qui l'a mis en lien, qui a été capable de comprendre qu'il y avait des choses derrière ces formules et qui l'a mis en lien avec, lui aussi, c'est une figure de l'époque, Hardy, qui était ce qui se faisait de mieux à l'époque sur la théorie des nombres. Et voilà, et en fait... Finalement, au début, Hardy croyait que c'était un canular. Et bon, finalement, ils se sont rendus compte que ces formules étaient vraies. Elles ont toutes été démontrées, mais certaines très tardivement. Il a, je crois, 3 ou 4 carnets pleins de formules. C'est des formules qui sont mystérieuses, magnifiques et toutes vraies. Et voilà, ça aussi, ça, voilà. Pour moi, c'est vraiment... Je suis épatée, quoi. Voilà, je trouve ça chouette. Alors... D'un côté, c'est peut-être un peu frustrant parce qu'il n'a pas fait de démonstration. Enfin, après, il a bossé avec Hardy quand même. Donc, je pense que là, il est rentré dans un cursus plus classique. Mais c'est le Mozart. Oui, je crois qu'on dit que c'est le Mozart des mathématiciens, mais c'est un Mozart qui n'a pas forcément eu quelqu'un qui l'a soutenu au départ. Peut-être que s'il avait été dans un processus plus classique d'études, etc., il aurait été... Il a déjà produit des résultats extraordinaires. Donc voilà, il est mort très tôt de froid et de maladie contractée en Angleterre. Enfin, il y a une vie assez triste.
Oui, mais c'est vrai que tout le monde n'est peut-être pas capable de noter. Mais peut-être que la déesse a choisi la personne qu'il connaissait pour...
Oui, je pense que la déesse, elle n'a pas fait ça complètement au pif quand même.
Elle n'a pas fait ça n'importe comment. Alors, une question. Découvre-t-on les maths? Voilà, est-ce qu'on les invente? Pour revenir un petit peu à ce qu'on disait en début, parce que je...
C'est... Alors là, ça c'est...
Ça me trotte vraiment dans la tête. Est-ce qu'on découvre parce qu'on en a besoin, d'accord, mais est-ce que... Oui, comme les archéologues, de temps en temps, quelque part, dans un vieux livre,
ben, en fait, c'est mystérieux. Et là, je pense que... Il n'y a pas de réponse connue, et je crois qu'il n'y a pas de réponse, c'est pas tranché. Parce que bon, d'un certain côté, on peut dire que les mathématiques, c'est une création humaine. Bon, voilà, c'est des choses qui sont inventées par les êtres humains. Mais par exemple, si on revient sur l'histoire des nombres premiers, ok, on invente les nombres. Mais le fait qu'il y ait des nombres premiers et pas d'autres, ça, on ne l'a pas inventé, ça n'a pas été fait exprès. Et si je reviens sur les nombres complexes, ok, ils ont inventé un nombre qui s'appelait racine de moins 1. Un nombre imaginaire, tellement ils avaient... Enfin, ils se rendaient compte que là, c'était vraiment iconoclaste ce qu'ils faisaient. Mais après, une fois qu'on a inventé ce nombre, ben en fait, il ne fait pas n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi avec. Et on n'a fait que découvrir comment ça marche. Et ce qu'on a découvert... Donc, on pourrait dire qu'on a construit l'ensemble des nombres complexes, mais parce qu'il fallait qu'ils répondent à un certain nombre de règles pour que ce soit un ensemble intéressant. Est-ce qu'on n'a absolument pas fait exprès, enfin, on ne l'a pas construit pour, dans cet ensemble-là, toutes les équations polynomiales ont des solutions. À la base, c'était fait, je vous rappelle, pour résoudre x carré égale moins 1. Oui. Non, maintenant, n'importe quelle équation de n'importe quel degré, x puissance 17 plus 3 quarts de x puissance 7 moins x plus 3 égale 0, on sait qu'il y a des solutions. On sait leur nombre. Alors, il n'y a pas de formule pour les démontrer. Mais pareil, le fait qu'il n'y ait pas de formule, c'est un truc, on n'y peut rien. Enfin, c'est pas, on n'a pas décidé qu'il n'y avait pas de formule. Donc, pour moi, j'aurais plutôt... À la fois, on crée les objets, mais on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Donc, je ferais plutôt partie des gens qui ont ce rapport avec les maths que c'est plus de l'archéologie, quoi. Aller à la recherche de pourquoi ça se passe, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, etc.
Essayer d'inventer un nouvel outil. lorsqu'il y a une problématique, si on peut appeler un outil.
Oui, mais cet outil, on peut pas faire n'importe quoi avec. On l'invente, oui, mais en même temps, on découvre des choses sur lui, comme si en fait on le mettait à jour. Parce que quelque part, racine de moins 1, bon bah voilà, il y a qu'à écrire racine de moins 1. Vous voyez, moins 1 existe, racine existe. C'est comme si on avait les outils, puis pof, on l'assemble. Donc le fait de l'assembler, ça c'est gonflé. Mais je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, ça c'est une vaste débat.
Effectivement, racine de moins 1, la première fois qu'on le voit, alors qu'on nous a dit qu'il fallait absolument que sous la racine ce soit positif.
Ah oui, alors là.
C'est un peu contre-intuitif.
Il y a des élèves qui ne s'en remettent pas.
Hein. Ah ben, il y en a beaucoup qui lâchent à ce moment-là, ouais. Qui disent je vais aller faire de l'économie ou des lettres.
Qui se sentent trahis, c'est ça qui est.
À ce point-là?
Ah ouais, moi j'ai rencontré plusieurs personnes qui se sont senties trahies par leurs profs qui les avaient bassinés qu'un carré était toujours positif, etc. Et puis là, on leur dit i carré égale moins 1. Mais en fait, ce qui est intéressant, et ça va loin, entre guillemets, on peut aller loin dans ce type de réflexion, c'est pas que c'est faux qu'un carré est toujours positif, c'est que quand on est dans l'ensemble des nombres complexes, ça n'a pas de sens de parler de positif ou négatif. Vous voyez, donc c'est en fonction du contexte. Et donc, c'est là où je trouve que ça s'applique à autre chose qu'au maths. Un mot, s'il est pris hors contexte, il n'a pas de sens. Vous voyez, positif, ça a un sens précis dans un cadre. Dans un autre cadre, ça n'a pas de sens. Dans un troisième cadre, ça pourrait avoir encore un nouveau sens. Donc, c'est ça qui est intéressant dans les mathématiques aussi, c'est ce rapport au langage, où en fait, on passe beaucoup de temps à définir de quoi on parle. Et pour moi, c'est quand même important de définir de quoi on parle. J'ai l'impression que c'est quand même, j'ai envie de dire, la base des malentendus et des disputes et des guerres aussi entre les humains, parce que on sait pas de quoi on parle et on s'entend pas, quoi.
On n'a pas le même langage.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, parce que pour revenir à l'histoire, est-ce qu'on les découvre, est-ce qu'on les invente?
D'accord.
Plusieurs écoles.
Tout à fait. Est-ce qu'ils vont et on va pas rebondir sur l'école? Plusieurs écoles. Point. On va pas sur l'école. Bien Agnès, je vous remercie. Pour finir, une petite anecdote. Alors, je vais poser une question à mon invité, mais que vous retrouverez sur l'une des vidéos de Micmat. Et je l'adore celle-là parce que j'aurais pu en faire un quiz comme j'ai l'habitude sur une autre émission. Si je vous demande le résultat de la somme de tous les entiers naturels, c'est-à-dire de 0 à plus l'infini, quelle est la solution? Et là, vous allez être surpris. Vous allez voir que les maths peuvent être un petit peu taquins. À la base, on imagine que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus l'infini, ça fait l'infini. Et la réponse est...
Moins 1 douzième.
Voilà, et sur cette réponse iconoclaste, mais qui fonctionne si vous le posez mathématiquement...
Dans un certain monde.
Oui, dans un certain monde. Oui, effectivement.
Un certain monde mathématique, ça fonctionne.
Tout à fait. Merci beaucoup Agnès.
Ben, merci à vous Eric.
Et
merci pour l'invitation.
Au plaisir d'une prochaine rencontre.
Ben, avec plaisir.
C'était la Tectonique du Savoir en compagnie d'Agnès Rini. Nous espérons vous avoir donné envie de prolonger cette flânerie mathématique. À la réalisation, Tiffaine Lemen, bravo et merci pour la réalisation de cette émission. Si vous avez pris l'émission en cours ou si vous souhaitez l'écouter à nouveau, elle sera rediffusée ce soir à 23h. Quoi qu'il en soit, vous pourrez retrouver cette émission dans la merveilleuse bibliothèque de podcasts sur le site de la radio www.espritoccitanie.fr. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur la page de l'émission. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel intermède tectonique.